simple cas condamne une nouvelle fois les radios libres. Les autoriser, dit-il, ce serait l'anarchie des ondes.
Principe actif par principe actif ou actif par principe, c'est principe actif.
L'équipe, des bénévoles tout à la fois, techniciens et journalistes, tous ont en commun de faire une radio libre.
Principe actif.
Salut à tous, nous sommes des élèves du collège Henri Dunant. Nous sommes aujourd'hui en direct de l'abordage pour une journée citoyenne. Nous recevrons à nos micros le groupe HK et les Saltimbanques, l'écrivain Stéphane Hessel et le photographe Julien Pitinoum.
Cette journée citoyenne se déroule ce jour. À 14h, les élèves des collèges Henri Dunant et Polizère rencontrent Stéphane Hessel. À 15h, un concert sera donné par HK et les Saltimbanques. À 18h, débutera la soirée citoyenne ouverte à tous. Donc 18h, ouverture des portes sur le village associatif où seront présents Des Racines et des Ailes, association de soutien à la Palestine, RESF 27, association de soutien aux enfants sans papiers, Artisans du Monde, association de commerce équitable, et des Briques pour Haïti, association de soutien aux sinistrés d'Haïti. Première partie avec la rencontre entre Stéphane Hessel et le public, puis en deuxième partie, concert de HK et Saltimbanques.
Entre hip-hop et chanson, HK et les Saltimbanques proposent une musique engagée et joyeuse. Nous recevons maintenant ces citoyens du monde comme ils se définissent eux-mêmes. Bonjour.
Salut.
C'est quoi le travail de chanteur ?
Ah, c'est un sacré métier, c'est une passion plus qu'autre chose. Donc voilà, c'est d'être ici avec vous notamment, c'est d'être sur scène et c'est de pouvoir beaucoup voyager, rencontrer beaucoup de gens et puis pouvoir faire ce qu'on aime et vivre de ce qu'on aime, la musique.
Est-ce que c'est dur ?
On va pas se plaindre. Enfin, c'est dur. Il y a le côté métier, mais c'est une chance surtout. Voilà, c'est une chance quand on arrive à vivre de ça, de ce qu'on aime. C'est pas donné à tout le monde, on le sait. Donc cette chance-là, on essaye de le partager. Quand on fait des concerts, quand on est là avec les gens, on essaye de partager ces petits bonheurs qu'on a à nous. Et essayer de mettre un petit peu, semer nos graines de saltimbanque un petit peu partout. Ouais.
Et pourquoi est-ce que vous avez choisi le nom de HK et les Saltimbanques?
Parce que je voulais leur montrer c'était qui le chef. Hein. Je leur ai dit c'est HK, c'est moi le chef. Hein. Faut pas déconner non plus. Et parce que c'est qu'une bande de saltimbanques. Mais parce que l'état d'esprit des saltimbanques, c'est quelque chose qu'on revendique. Et c'est ce côté, tu parlais de révolte joyeuse. Voilà, c'est le fait de se dire à la fois on est indigné. Alors vous aurez l'occasion de parler de ça avec monsieur Hessel tout à l'heure. Et à la fois, on est dans l'idée d'incarner autre chose, un autre chemin qui est, on sort de la grande route et puis on prend des petits chemins de traverse, un petit peu sinueux, un petit peu, même parfois un petit peu bancal, et toujours avec le smile et la bonne vibe. Et voilà, dans cette idée de partager des graines de bonheur et d'espoir, c'est un peu ça l'idée du saltimbanque.
Pourquoi parlez-vous de Jacques Brel dans la préface de l'album ?
Je parle de Jacques Brel dans la préface de l'album ? Ah oui. D'accord. Grand Jacques. Ah, mais oui, mais parce que c'est une phrase, alors, d'une chanson de Jacques Brel qui s'appelle Jojo, et qui dit, cette phrase dit « Je te parle en silence d'une jeunesse vieille, nous savons tous les deux que le monde sommeille par manque d'imprudence. » Et ça rejoint ce que je viens de vous dire juste avant avec le côté des saltimbanques, c'est qu'aujourd'hui, on vit une époque où il faut être dans la norme, il faut être lisse, consensuel, il ne faut pas faire de vagues. Donc voilà, c'est ce qu'on nous apprend et c'est ce qu'on vous apprend. Et nous, on dit que, au contraire, un petit peu d'imprudence, un petit peu de folie, un petit peu d'utopie, parce que c'est pas un gros mot l'utopie. Ça fait du bien. Donc c'est pour ça qu'on cite Grand Jacques.
Et pourquoi vous avez mis Édith Piaf dans votre album ?
Ce n'est pas Édith Piaf. Alors Monsieur Mazerolle, vous avez mal travaillé vos fiches, hein ? C'est Lucienne de Lille. C'est une ancienne grande chanteuse qui, de l'époque juste un peu avant Piaf, et qui à son époque était encore une plus grande star que Piaf, même. C'était vraiment une grande, grande dame de la chanson française de cette époque-là. Et voilà, cette petite chanson, un air d'accordéon, c'est la rencontre entre deux époques. C'est ce qui est magique dans la musique, c'est qu'on peut faire... on peut traverser le temps et l'espace et en un claquement de doigts, on se retrouve à raconter des histoires d'aujourd'hui, d'hier, mélangées avec une réincarnation presque de cette vieille dame dans cette chanson-là.
Vous utilisez beaucoup l'ironie et l'humour pour faire passer vos messages. Pourquoi ?
Parce que ce qui est bien avec l'histoire du saltimbanque, souvent, c'est qu'on a une place qui nous permet de dire plein de choses, et souvent, et on n'est pas pris au sérieux. Alors, on peut, des fois, on peut s'en offusquer, on peut se dire, tiens, on voudrait être pris plus au sérieux. Puis à d'autres moments, on se dit, bah, c'est bien, justement, parce qu'on peut jouer de ça et on peut aller très, très loin. Avec l'ironie et l'humour, ce sont des armes, en fait, qui nous permettent d'aller très, très, très loin. Par exemple, quand on prend une chanson comme Ma Parole, où on parle d'un président, donc c'est totalement fictif, hein, qui promettrait tout et son contraire à tout le monde et à personne. Donc voilà, l'humour nous permet vraiment d'être tranchant parfois et de l'absurdité, les preuves par l'absurde. Vous voyez ça peut-être des fois à l'école, ce qu'on appelle une preuve par l'absurde. Eh bien, on fait ça, mais en musique.
Quel est votre morceau préféré dans ce double album ?
Passer ma vie. Voilà, il y a un côté, cette idée-là de la musique, c'est souvent de partir du personnel, de raconter ses petites histoires et d'essayer de toucher à l'universel où chacun peut se reconnaître là-dedans et peut se dire que cette histoire, c'est la sienne. Et je pense qu'il y a un peu de ça dans cette chanson-là.
Où et comment avez-vous grandi ?
À Roubaix, dans le Grand Nord. Donc Roubaix, cité ouvrière, prolétaire, c'est une ville... Une ville très métissée qui a subi beaucoup de vagues d'immigration. Donc moi, j'ai grandi entre voisins portugais et italiens. Derrière chez moi, je dis souvent, c'était les Jeux Olympiques, Algérie, France, Clandos, reste du monde. Donc ça, c'est ce qu'on vivait tous les soirs derrière chez moi. Donc voilà, c'est là où j'ai grandi, dans le Grand Nord.
Quel souvenir gardez-vous de vos années collège ?
Mais mon problème, c'est que j'étais saltimbanque avant l'heure et mes professeurs ne comprenaient pas très bien. Et moi, je ne comprenais pas très bien. Il y avait une sorte d'incompréhension. Donc voilà, j'ai appris beaucoup de choses, heureusement. Mais j'ai peut-être appris plus de choses dans la cour de récréation qu'en cours. Au moins autant de choses, on va dire. Allez, on va dire autant de choses. Donc voilà, c'est des années où on se forge, où on commence à se rendre compte de qui on est, de qui on veut être. Et c'est vrai que moi, très vite, j'avais cette voix en tête du côté un peu saltimbanque, un peu raconter des conneries, un peu faire le zouave. Et c'est pas toujours très, très compatible avec le système scolaire. Voilà.
En référence à la chanson « La Mama », écoutez-vous toujours vos parents ?
Non, malheureusement. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas écouter vos parents, mais vous faites ce que vous voulez, vous démerdez. Moi, ce que je dis, c'est voilà, nos parents, enfin moi particulièrement, ma maman, voilà, je l'aime comme personne d'autre et elle est toujours là à me donner plein de bons conseils. Et c'est vrai que je l'écoute pas souvent et même souvent, je suis pas d'accord avec elle. Mais je sais que tout ce qu'elle dit, c'est toujours avec beaucoup d'amour. Donc la chanson, c'était une manière d'en rire un peu et puis et souvent aussi nous avec nos parents donc qui viennent de l'immigration, c'est moins le cas pour ma maman qui a pas cet accent là, mais j'ai mes tantes qui ont cet accent là souvent. Donc c'est des gens qui maîtrisent pas forcément la langue française et qui avec des mots très simples peuvent nous toucher quoi, peuvent vraiment nous mettre des claques entre guillemets avec des mots très très simples et qu'on pourrait croire très naïfs et souvent ça nous met des claques et c'est ce qu'on voit dans cette chanson là quand à la fin il y a son fils qui se fait embarquer par la police et elle dit je comprends pas, je t'ai donné toujours l'amour, j'ai occupé de toi tous les jours et c'est des voilà, c'est des phrases toutes simples, toutes bêtes et en même temps que voilà, qui résonnent en nous et j'allais dire tellement simples et tellement vraies en fait et tellement chargées d'amour. Voilà, c'est une chanson d'amour finalement.
Quelle est l'importance pour vous de l'héritage familial et culturel ?
C'est l'histoire, l'héritage, c'est notre première page, voilà. C'est là que commencent nos livres à chacun de nous. On grandit, il y a nos parents qui ont eu une histoire, qui nous ont amené à un certain point plus largement, pas que nos parents, tout un contexte, parfois tout un pays, toute une famille, tout. Et donc ça, c'est notre première page. Et il faut qu'on l'écrive nous-mêmes, qu'on la recopie nous-mêmes, cette première page, pour en avoir bien conscience, pour l'imprimer dans nos têtes. Et en même temps, il faut que suite à ça, on n'oublie pas d'écrire la nôtre. Parce qu'il ne faut pas non plus... La mémoire, c'est quelque chose de vital, d'important. Et c'est une arme. Mais ça ne doit pas nous empêcher, surtout pas. Au contraire, ça doit nous aider à écrire notre propre histoire. Ça doit nous aider à prendre notre stylo et puis à y aller et puis à prendre notre chemin, quoi.
Pourquoi défendez-vous la cause des sans-papiers ?
Parce que ce qui se passe, c'est que on le voit au-delà de la cause des sans-papiers. Il y a plusieurs manières de voir le monde et de concevoir, l'humanité. Soit on la voit dans le monde tel qu'il fonctionne aujourd'hui, dans ce qu'on appelle le rapport de force. Alors c'est pas les méchants et les gentils finalement. C'est les forts et les faibles. Et donc les forts s'arrogent tous les droits et puis usent de tous les prétextes et puis pour pouvoir asservir d'autres gens. Alors il y a des gens qui se sont battus comme Monsieur Hessel, qui a été de ceux qui ont rédigé cette Déclaration universelle des droits de l'homme, pour avoir un autre fonctionnement, des autres rapports entre les êtres humains, qui sont pas des rapports basés sur les lois de la jungle, sur les rapports de force, qui sont des rapports basés sur l'esprit de solidarité et d'équilibre, sur des valeurs fondamentales comme le droit et la liberté. Donc nous, on se bat pour réhabiliter cet idéal-là, cette utopie-là, qui malheureusement a été oubliée, dénigrée, mise de côté. Donc... Et en se battant pour ça, plus largement, on se bat pour des causes par rapport à des sans-papiers. Et quand on parle de sans-papiers, on parle de droit d'asile aussi souvent. Notamment là-dessus, on se bat.
Défendez-vous d'autres causes ?
C'est ce que je viens de dire. Pour nous, c'est vraiment... On défend surtout des idéaux. Voilà. On défend surtout des idéaux sur lesquels, quand on dit on lâche rien, c'est ça quoi. On lâche rien pour ces idéaux qui sont les nôtres et souvent on nous dit qu'on est des fous. On revient à la phrase de Jacques Brel tout à l'heure, qu'on est des fous rêveurs, utopistes, etc. Qu'on n'est pas connecté avec la réalité. Mais quand la réalité est absurde, il faut la combattre absolument. Donc voilà.
Connaissez-vous le travail de Stéphane Hessel?
Un petit peu. Donc on connaît forcément son parcours et c'est peut-être. Alors moi, je m'estime comme un citoyen du monde, pas comme un citoyen français. Mais s'il y a une personne qui devait me donner cette fierté d'être français, c'est ce monsieur-là. Voilà, il a traversé les époques et il incarne. Un parcours et des valeurs dans lesquelles moi je me reconnais, on est beaucoup à se reconnaître et on est heureux que ces gens-là existent et on a envie de les suivre, on a envie de poursuivre le chemin qu'ils ont tracé.
Êtes-vous d'accord avec Stéphane Hessel par rapport à l'indignation ?
Ouais, non mais il faut... C'est... Vraiment, on tourne toujours autour des mêmes... phrases, des mêmes schémas. On en revient à cette phrase, par exemple, de Jacques Brel, quoi. Le monde sommeille par manque d'imprudence, où on sent que les gens sont blasés, sont résignés, sont tête baissée, on leur dit qu'ils doivent accepter. On leur dit qu'il faut accepter le monde tel qu'il est, vous ne pouvez pas le changer, il faut arrêter de rêver. Mais c'est la cruauté infinie et c'est criminel de dire à quelqu'un qu'il faut arrêter de rêver. Et non, il ne faut surtout pas arrêter de rêver parce que c'est là que commencent les changements, les progrès de l'humanité. C'est quand à un moment donné, des gens se disent « Tiens, je peux rêver à ça, je pourrais peut-être atteindre ça. » Et après, on se donne les moyens pour y aller, quoi.
Et vous, qu'est-ce qui vous indigne ?
Qu'est-ce qui m'indigne ? Alors, je pourrais te dire la dernière chose. Par exemple, voilà, une chose qui m'indigne, c'est que, vous pourrez poser la question à Monsieur Hessel tout à l'heure, c'est que Stéphane Hessel, par exemple, a été, il y a de ça quelques semaines, il a été censuré alors qu'il devait faire une conférence sur le sujet de la cause palestinienne. Donc ça, voilà, ça m'indigne parce que, est-ce qu'à un moment donné, on est dans un pays où... On est en démocratie, semble-t-il, où on a cette possibilité-là de combattre par le droit, par la parole. On a cette possibilité-là de débattre. Et des gens, au lieu de... Alors, je vous explique un peu le contexte. C'était un débat sur la cause palestinienne.
Et il y a des gens, genre très connus hein, et très influents, comme Bernard-Henri Lévy, que vous devez connaître, comme M. Finkielkraut, qui ont jugé bon de faire annuler ce débat en disant voilà, c'est pas possible, c'était un débat partisan, c'était pas vraiment un débat, c'était un truc, c'était de la propagande, entre guillemets. Mais si on prend le parti de se dire on est dans un pays démocrate, etc. Ben ces messieurs-là pouvaient simplement s'inviter au débat. Monsieur Bernard-Henri Lévy pouvait dire « Attendez, je ne suis pas d'accord, ce débat est déséquilibré, je m'invite au débat et débattons ensemble. Je viens vous apporter la contradiction. » Ça, c'est être démocrate. Et là, il y a une dictature. C'est une dictature, une censure. Donc voilà, on reconnaît bien, là on voit bien très exactement deux schémas de société. Et clairement, il faut choisir le schéma qui est le nôtre. Celui voilà, de la démocratie, du débat, de la liberté d'expression, ou celui de la censure, des intérêts privés, des non-dits et voilà, des rapports de force nauséabonds. Donc ça m'indigne. Une autre chose qui m'indigne, c'est quand on se rend compte, pareil, on nous apprend à l'école, alors on vous apprend à l'école, et c'est bien, on vous apprend cette histoire-là, et cette histoire-là, c'est une belle histoire. L'histoire des droits de l'homme, l'histoire de la France comme étant... Alors on dit la patrie des droits de l'homme comme étant une des patries des droits de l'homme, l'histoire de la résistance. Donc toute cette histoire-là, elle est incarnée par M. Hessel. Et on se rend compte quoi ? Qu'aujourd'hui, les dirigeants français sont les amis des dictateurs. Donc ça m'indigne. Et ça doit nous indigner tous. À un moment donné, qui sommes-nous ? Qui sommes-nous dans ce pays-là ? Alors, on parlait d'identité nationale. Voilà. Est-ce que nous sommes un pays démocrate ? Donc, si on est démocrate, si on veut la démocratie pour soi, on la veut pour d'autres. Donc, on la veut pour les autres peuples qui se soulèvent et qui réclament simplement la liberté. La liberté. Voilà. La liberté et des droits fondamentaux. Donc voilà, ce sont plein de choses qui nous indignent, qui doivent nous indigner. Et à un moment donné, on doit se battre pour cet idéal, au-delà de l'idéal de la France, mais de cet idéal de l'humanité, qui est de se dire, bah oui, effectivement, moi je suis démocrate. Effectivement, je ne peux pas vivre dans un pays où mon président, mes ministres sont les amis des dictateurs. Et les amis, et parfois les complices, et parfois il y a des intérêts privés, etc., etc. Donc tout ça m'indigne, et parmi d'autres choses.
Nous allons faire une pause musicale de votre album. Quelle chanson voulez-vous que l'on écoute?
On parlait tout à l'heure de passer ma vie, c'est bien.
Merci d'avoir répondu à nos questions et bon concert.
Merci à vous.
Au revoir.
Passer ma vie sur les routes, nomade tel un vagabond. Passer ma vie goutte après goutte, goûter tout ce qu'il y a de bon. Passer ma vie à raconter des histoires, chanter des chansons. Fuir ce monde qui est illusoire, ce monde qui me fait la leçon. Moi, poète inutile, fainéant, improductif et lâche. Moi, la cigale qui chante l'été quand les fourmis se tuent à la tâche. Passer ma vie à crier sur les toits que l'homme n'est pas fait pour ça. Passer ma vie tout près de toi parce que sans toi je ne suis pas. Ils ont bâti un monde de blasés qui pense que tout est cuit, qui pense que plus rien ne peut changer nos rêves, nos vies, nos espoirs écrasés. Enchaînés à leur chaîne de pensée, esclaves de leur réalité. Passer ma vie à essayer de me persuader qu'un jour peut-être les choses changeront d'elles-mêmes. Passer ma vie à vouloir faire avec. Passer ma vie à accepter tout ce que je ne peux pas changer. Passer ma vie à vouloir changer tout ce que je ne peux pas accepter. Passer ma vie à te regarder dans le blanc des yeux. Passer ma vie à espérer qu'on sera toute la vie tous les deux. Passer ma vie tant bien que mal à vouloir vivre le bonheur. Quand bien même ce monde nous inonde de ces immondices horreurs. Un étranger, c'est tout ce que je suis. Sur terre je n'ai pas de chez moi. Chez vous c'est bien trop petit, trop à l'étroit dans votre paradis. Mon cœur et mon âme s'évadent, s'envolent, rêvent d'une autre vie. Passer ma vie, 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 passer ma vie à oublier qu'un jour
Viendra la nuit qui me dira que mon heure est passée, que je ne pourrai plus désormais passer ma vie tout près de toi à me dire que tu es si belle. Passer mes nuits sous ce toit où nos songes se ramassent à l'appel. Passer ma vie à crier à l'injustice et au mensonge. Passer ma vie à passer pour un fou, un parano, un étrange. Passer ma vie à m'indigner pour tout et pour n'importe quoi. Passer ma vie à radoter les mêmes mots pensés mille fois. Passer ma vie à regarder passer ce monde fier, futile, furieux, folle caravane de l'insensé. Passer ma vie, penser, dépenser cette vie dont j'aimerais être heureux le jour où elle sera dépassée. Passer ma vie.
Stéphane Hessel, personnage historique, né en 1917 à Berlin, il a participé à la Seconde Guerre mondiale, a rejoint le général de Gaulle à Londres, ami de Jean Moulin, résistant français. Il sera plusieurs fois prisonnier de camps de concentration d'où il s'évadera. Il participera à la rédaction de la Déclaration des droits de l'homme et sera de nombreuses années ambassadeur de France à travers le monde. Nous le recevons aujourd'hui à l'occasion de la parution de son dernier livre « Indignez-vous ». Stéphane Hessel, bonjour.
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 Qu'entendez-vous quand vous dites « Indignez-vous » ?
Je pense qu'il est important que votre génération, peut-être pas encore à votre âge, mais au fur et à mesure que vous avancerez en âge, comprenne qu'il y a des phénomènes dans notre monde et dans nos sociétés qui sont inacceptables. Il y a une pauvreté immense, inacceptable. Il y a un manque de considération pour la planète que l'on est en train d'attaquer gravement dans ses ressources. Tout cela est inacceptable, il faut savoir ne pas l'accepter et donc s'indigner pour que les choses changent. C'est possible, c'est souhaitable, c'est nécessaire. Il appartient à votre génération de faire tous ces efforts pour que ces choses inacceptables contre lesquelles nous avons raison de nous indigner se transforment dans un sens plus favorable.
Avez-vous encore des buts pour votre fin de vie ?
Des buts. J'ai plusieurs buts. L'un très concret, qui est d'essayer de mettre un terme à la lutte entre Israël et les Palestiniens. Je pense que dans ce Proche-Orient, si important pour nous, pour notre culture, berceau des grandes religions, dans ce Proche-Orient, la paix est possible. Difficile, mais si nous nous engageons pour trouver une solution qui soit acceptable à la fois pour Israël et pour les Palestiniens, nous aurons fait un pas en avant considérable et là-dessus, je suis prêt à m'engager et je souhaite recevoir l'appui de tous ceux qui en France pensent comme moi que la paix entre Israël et les Palestiniens est infiniment souhaitable et est possible.
Qu'est-ce qui vous a motivé à participer à la rédaction des droits de l'homme ?
J'ai eu la chance de me trouver recruté par le secrétaire général des Nations Unies comme jeune diplomate français. J'avais 28 ans, j'avais envie de mener ma carrière de diplomate dans les relations internationales. Rien ne pouvait plus me faire plaisir que d'être recruté par le premier secrétaire général des Nations Unies, M. Trygveli, ancien ministre des Affaires étrangères de Norvège. Et j'ai été assigné tout de suite au département des droits de l'homme, présidé par un secrétaire général adjoint français, Henri Laugier. je n'ai rien eu de plus merveilleux à faire que d'assister aux réunions successives au cours desquelles était élaboré ce texte de 30 articles avec un beau préambule qu'on a appelé la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et je rappelle que c'est le seul texte international qui porte l'adjectif universel.
Quel souvenir avez-vous gardé de vos années collège ?
J'ai fait mon apprentissage scolaire dans une école très sympathique à Paris qui s'appelle l'école alsacienne, qui a été fondée après la guerre de 1870, lorsque la France a perdu l'Alsace au profit de l'Allemagne wilhelminienne. Et bien des gens ont quitté l'Alsace pour fonder à Paris un collège et un lycée qui s'est appelé l'école alsacienne. Quand j'ai eu l'âge de 11 ans, je suis entré en 6e à l'école alsacienne et je garde le souvenir d'une école très internationale. Nous avions des camarades russes, arméniens, américains, britanniques et nous travaillions tous ensemble dans un bon climat. J'ai beaucoup appris à l'école alsacienne. J'ai été louveteau à la meute de l'école alsacienne, puis éclaireur unioniste dans la troupe de l'école alsacienne. C'est vous dire que ma jeunesse a été formée dans cette école.
Quand et comment s'est déclenchée votre prise de conscience ?
Ma prise de conscience. À vrai dire, le souvenir que j'ai, c'est en entrant en classe préparatoire de l'école normale supérieure, ce qu'on appelle l'Hippocagne, puis la Cagne, que c'était le moment où Jean-Paul Sartre a fait paraître ses premiers textes, La nausée, Le mur, puis L'être et le néant. Et la position qu'il avait prise à l'égard de la jeunesse, de son temps et de sa génération, c'était qu'il fallait s'engager, qu'il fallait accepter d'être citoyen responsable. Cela a eu de l'influence sur moi. Par la suite, j'ai été encouragé dans cette action par d'autres philosophes, comme Maurice Merleau-Ponty, par exemple. Mais c'est de Sartre que date peut-être ma première prise de conscience. Il faut être un jeune responsable, pas seulement apprendre à bien vivre pour soi, mais aussi à s'engager au profit des causes des autres.
Que pensez-vous du travail de HK et les Saltabank et Julien Pitino ?
Pour le moment, je n'en ai pas bénéficié. Je crois que c'est ici que ça se fait. Et je serai peut-être ce soir auditeur de ce que font HK et les Saltabank. Mais en tout état de cause, quand on fait du théâtre, quand on fait une action au profit d'un public qui participe d'ailleurs à ce théâtre, on fait quelque chose qui élargit l'esprit et l'imagination. C'est ce que nous pouvons faire de plus important autour de nous.
Je souhaiterais devenir écrivain. Quel type de conseils pouvez-vous me donner ?
Si tu veux devenir écrivain, la première chose, c'est de vraiment apprendre à lire les œuvres des autres. Prends un ouvrage comme celui de Marcel Proust, À la recherche du temps perdu. Si tu arrives à t'imprégner de la façon dont il écrit, ça te donnera une ouverture sur la manière de dominer son écriture. Écrire peut être un mouvement rapide, on jette des choses sur le papier, c'est pas encore un écrivain. Il faut pouvoir relire et se dire, est-ce que j'ai bien exprimé ce que je voulais exprimer ? Et sinon, comment faire pour que ce soit plus clair pour mes lecteurs ? En tant qu'écrivain, tu dois avoir un rapport de confiance avec tes lecteurs. Te dire, ils vont me lire, est-ce qu'ils vont me comprendre ? Et sinon, qu'est-ce que je peux faire pour qu'ils me comprennent mieux ?
Merci beaucoup.
Merci à toi.
Au revoir.
Merci à vous.
Du fond de ma cité HLM jusque dans ta campagne profonde, notre réalité est la même. Et partout la révolte gronde. Dans ce monde on n'avait pas notre place, on n'avait pas la gueule de l'emploi. On n'est pas né dans un palace, on n'avait pas la CB à papa. SDF, chômeurs ouvriers, paysans, immigrés sans papier. Ils ont voulu nous diviser, faut dire qu'ils y sont arrivés. Tant que c'était chacun pour sa gueule, leur système pouvait prospérer. Mais fallait bien qu'un jour on se réveille et que les têtes se remettent à tomber. On lâche rien, 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 on lâche rien. Ils nous parlaient d'égalité et comme des cons les a crus. Démocratie fait-moi marrer, si c'était le cas on l'aurait su. Que pèse notre bulletin de vote face à la loi du marché? C'est con mes chers compatriotes, mais on s'est bien fait baiser. Et que pèsent les droits de l'homme face à la vente d'un Airbus? Au fond y'a qu'une seule règle en somme, se vendre plus pour vendre plus. La République se prostitue sur le trottoir des dictateurs. Leurs belles paroles on n'y croit plus, nos dirigeants sont des menteurs. On lâche rien, 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 on lâche rien. C'est tellement con, tellement banal de parler de paix et de fraternité. Quand des SDF crèvent sur la dalle et qu'on mène la chasse aux sans-papiers, qu'on jette des miettes aux prolétaires juste histoire de les calmer. Qu'ils s'en prennent pas aux patrons millionnaires, trop précieux pour notre société. C'est fou comme ils sont protégés, tous nos riches et nos puissants. Y'a pas à dire, ça peut aider d'être l'ami du président. Chers camarades, chers électeurs, chers citoyens, consommateurs, le réveil a sonné, il est l'heure de remettre à zéro les compteurs. Tant qu'il y a de la lutte, il y a de l'espoir. Tant qu'il y a de la vie, il y a du combat. Tant qu'on se bat, c'est qu'on est debout. Tant qu'on est debout, on lâchera pas. La rage de vaincre coule dans nos veines. Maintenant tu sais pourquoi on se bat. Notre idéal, bien plus qu'un rêve. Un autre monde, on n'a pas le choix. On lâche rien, 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 on lâche rien.
Photographe social et du monde de la musique, plus particulièrement hip-hop, nous recevons Julien Pitino. Bonjour.
Bonjour.
Pourquoi prenez-vous ce genre de photos?
Alors, ce genre de photos, ça vient d'un parcours personnel lié entre la culture populaire, la famille aussi, les engagements associatifs, et puis après un parcours d'école aussi, tout simplement. Donc moi je viens du Nord, à peu près du même bled que HK, c'est-à-dire que je suis à côté, hein, je suis né à Roubaix mais j'ai grandi à Tourcoing, et maintenant je vis à Paris. Et c'est la culture dans laquelle j'ai baigné qui m'a amené progressivement à m'intéresser à des problèmes sociaux. Donc je suis éducateur de formation, j'ai quitté mon travail d'éducateur pour être photographe, et du coup j'allie ma passion de photographe, qui est aujourd'hui mon métier, à des convictions personnelles et idéologiques liées à l'image, au renvoi de la vie des gens qui sont en difficulté, notamment là, l'exposition sur le droit au logement, et après la scène, vous parliez de hip-hop, voilà, tout est dans la même logique, c'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est des rencontres, c'est des gens avec qui on travaille, et avec qui je partage pas mal de choses, dont l'ancien groupe de HK, qui était le MAP, Ministère des Affaires Populaires, HK les Saltimbanques, la ZEP, zone d'expression populaire, plus voilà, plein de rencontres qui font que aujourd'hui je suis Julien Pittinum, ce photographe qui travaille sur la dimension sociale qui est importante, et aussi la dimension spectacle, danse, etc.
Aimez-vous prendre des photos de personnes célèbres ?
Alors, est-ce que j'aime prendre des photos de personnes célèbres ? Alors, pas plus que ça. Pas plus que ça, parce que c'est pas ce qui m'intéresse dans la photo. Dans la photo, ça m'intéresse pas. Sinon, je ferais des photos de people. Je serais avec paparazzi, peut-être, j'en sais rien. Mais non, ça m'intéresse pas du tout, même. L'important pour moi, c'est que mes photos, elles aient un message. Alors, pas toutes, évidemment, pas toutes. Mais elles ont un message, et qu'on met en avant, je puisse mettre en avant, quand je fais des photos sociales, quand je vais les appeler comme ça, les photos sociales, je mets en avant les personnes avec qui je fais les photos. Il faut que ce soit à l'image de ce que sont les gens, et si ça peut être à l'image de ce que je suis, voilà, c'est jackpot, c'est super. Donc non, les gens célèbres, j'en fais de temps en temps, mais c'est pas ce que je cherche à faire, et pas du tout même.
Quel message donnez-vous dans vos photos ?
Il y en a plein, et tout dépend avec sur quel sujet je travaille. Mais en tout cas, un message qui est important, c'est... Je termine mes expositions, et l'exposition que je mets aujourd'hui à l'abordage, c'est la lutte continue. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on vit dans une société où il faut se battre. Il faut se battre pour exister, il faut se battre pour dire ce qu'on a à dire, et c'est une lutte incessante. Donc voilà, vraiment, l'idée, c'est de passer ce message-là, c'est qu'il ne faut rien lâcher. Un des titres de HKS Altamanque, c'est « On lâche rien », vous l'avez tous écouté, je pense. C'est exactement ça, c'est « On lâche rien ». On va au bout de ce qu'on a à dire, de ce qu'on a à faire, et vous verrez peut-être un peu plus tard que ça paiera, en tout cas, tout ça, il faut. On sème des graines, comme Stéphane Essel dit, on sème des graines aujourd'hui, pourvu qu'elle pousse et qu'elle continue le combat et la lutte, en tout cas, contre les différences, contre les discriminations, tout ça.
Et quand vous parlez de graines, vous faites également allusion à nous ou...
Oui, principalement à vous. Principalement à vous, parce que c'est aujourd'hui que vous construisez votre esprit critique. C'est aujourd'hui que vous construisez votre regard sur les choses, sur vous, sur les autres. Et si vous êtes resté bloqué sur ce qu'on vous donne à la télé... Voilà, vous allez produire des choses qui sont à l'image de cette télé, et ce qui est important, c'est de participer à des événements comme là aujourd'hui, et puis faire des choses comme vous faites là, devant moi, devant vous, vous participez à l'expansion, à la mise en place, en tout cas, de ces graines-là, en tout cas, qu'elles poussent, voilà. Donc, quand on parle de graines, c'est vous, c'est moi, c'est aussi tout le monde, c'est tout le monde, mais les plus petites graines aujourd'hui, c'est vous. Et pourvu qu'elles poussent avec ce regard critique qui vous laissera pas, en tout cas, indifférent et bouffé par un système, en tout cas, voilà.
Et qu'est-ce qui vous relie avec la journée citoyenne en tant que photographe ?
Alors, c'est un peu tout ce que je dis depuis tout à l'heure, c'est que dans mon travail de photographe, c'est mettre en avant... Le citoyen, la personne, le citoyen, il appartient à une société. On vit dans une société, alors on appartient à la société française, mais on est un citoyen du monde. Et donc du coup, pour moi, mes photos, elles mettent en avant les conséquences humaines des choses dans lesquelles on vit. C'est de passer aussi... même des fois, je fais des photos, je fais des séances photos avec des modèles, mais qui ne sont pas forcément des top modèles, hein. Mais l'idée, c'est qu'à un moment donné, ces personnes-là, je ne vois pas que la beauté esthétique. C'est-à-dire qu'il faut que ce travail-là, il soit aussi intérieur. Et la question de la citoyenneté, elle est importante. Et donc, mon travail est en lien vraiment avec ce que nous sommes. Et du coup, ce qu'on représente, la question de l'image et ce qu'on représente. Donc, mes photos sociales sont intimement liées à cette question de la citoyenneté et de la journée du citoyen.
Quel sentiment ressentez-vous quand vous prenez des photos ?
Ah, le sentiment. Quelque chose qu'il faut travailler, hein. Je vous invite à le faire parce que c'est important. J'ai appris à le faire. aussi à travailler sur les sentiments. Tout dépend dans quelles conditions je fais les photos. Quand je fais des photos, à visée sociale, ou en tout cas où je viens dénoncer un système contre lequel je suis contre, j'éprouve une certaine fierté à un moment donné à me dire, voilà, j'ai fait ce travail-là, mais ce n'est pas que mon travail. C'est-à-dire que j'ai pu mettre en image ce que les gens ont envie de me donner. C'est-à-dire que c'est le reflet de ce qu'ils sont et de ce qu'ils ont envie de me dire. Mon exposition sur le droit au logement et sur la lutte contre l'insalubrité, c'est exactement ça. C'est-à-dire que j'étais très content de faire ce travail-là avec une association, mais la plus grande fierté que j'ai eue, c'est quand les personnes qui sont prises en photo et que vous voyez sont venues me dire « Julien, je me trouve beau ». Voilà. Et bien, tout simplement ça, c'est une réussite. Vraiment, c'est juste ça. Ce sentiment, en tout cas, la fierté d'avoir fait certaines choses, c'est super important. Et après, j'apprécie beaucoup ce que je fais et j'en profite parce que j'ai la chance de le faire, de vivre d'une passion qui est un métier aujourd'hui. J'ai cette chance-là, donc j'en profite à fond.
Merci Julien Puccino de nous avoir accordé un peu de votre temps.
Ah, il est pour vous ce temps aussi. Merci à vous.
Merci. Nous venons de vous présenter des artistes et écrivains. Cette émission était présentée par des élèves du collège Henri Dunant à Évreux.
Un grand merci à tous les auditeurs qui nous ont écoutés. C'était Henri Dunant et Principe Actif en direct de l'Abordage. À vous les studios.
Le studio bouge avec Principe Actif.